de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Radio Pleine Lune 3.8 MHz, Ondes Femmes, Radio Zone. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Remets la musique.
Juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit.
Radio Pleine Lune 3.8 MHz. Onde Femme, Radio Zone, ça y est, je suis là. Mon micro était coupé, il paraît. Eh bien, non, vous n'arriverez pas à me couper, je suis là. Viviane au micro, Marjolaine à la technique, Catherine qui s'estompe, le remue-ménage, c'est calme et la lune apparaît dans le studio de la lune plein vos oreilles sur 93.8 MHz dans quelques instants. Les nouvelles, et puis à 19h, canicule, le quart d'heure lesbien sur Radio Pleine Lune, suivi du Memento de Marjolaine. À 20h, une émission sur le travail ménager, rendons visible ce travail. 21h, musique de femmes, du rock au féminin, suivi d'un concert de Gary Allen, pianiste de jazz. Dans quelques instants, nos nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, nos nouvelles. Guerre du sexe aux Jeux Olympiques. Depuis l'affaire d'Erika Schinegger, médaillée en 1966 et qui ensuite devint un homme, le Comité international olympique est très inquiet sur le véritable sexe de ses sportives et décide de faire passer un test génétique aux femmes sportives pour s'assurer de leur vrai sexe. Il paraît qu'à vue d'œil, ça ne se voit pas, même en regardant dans la culotte. Il faut donc aller chercher plus loin et aller voir dans les chromosomes si par hasard ce ne seraient pas des véritables femmes. En effet, au niveau des chromosomes, les femmes se distinguent des hommes par le fait qu'elles possèdent deux chromosomes appelés X, alors que les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Schématiquement, on pourrait admettre que les candidates porteuses d'un chromosome Y seraient éliminées des épreuves féminines car ce ne seraient pas des véritables femmes. Mais les choses ne sont pas si simples. Il y a en effet des femmes qui sont dotées d'un chromosome X et aussi d'un chromosome Y. Elles restent des femmes, elles sont d'apparence féminine, mais souffrent d'un syndrome génétique. On est donc en présence d'une anomalie, mais rien ne permet d'affirmer que ce ne sont pas des véritables femmes et que ces femmes-là ne pourraient pas être candidates aux épreuves féminines des Jeux Olympiques. Le Comité international a donc décidé de pousser plus loin ces tests de dépistage génétique. Mais contre cette décision, se sont élevés plusieurs chercheurs qui ont lancé une pétition. 22 chercheurs, dont 2 prix Nobel de médecine, des biologistes et généticiens, qui estiment que cet examen procède d'une importante confusion sur le plan médical et scientifique et constitue un défi sur le plan éthique. Pour ces savants, il y a là, je cite, « une agression et une discrimination manifeste envers les femmes ». Aujourd'hui, déclare un professeur de division génétique, quand on parle de sexe, on mélange trop les choses. Rien n'est simple, bien au contraire. La majorité des hommes ont un chromosome masculin, comme vous et moi, et la majorité des femmes un chromosome féminin. Mais sans aller jusqu'à l'exemple des transsexuels ou des hermaphrodites, il faut bien reconnaître qu'il y a une série de cas entre deux tellement complexes qu'il apparaît difficile de porter un jugement définitif en termes d'un test tel qu'il est pratiqué à Chambéry ou à Albertville. En fait, cette querelle renvoie à une définition bien précise de la femme. Une femme doit être gracieuse, fine, belle, douce, et j'en passe. Si elles deviennent championnes et que leur performance se rapproche alors de celle des hommes, méfions-nous, ça doit être des fausses femmes. Et les commentaires des journalistes sont très clairs à ce propos. On pouvait lire dans La Suisse, on parle par exemple des chromosomes féminins comme chez Brigitte Bardot ou de la belle Souria Bonali qui, elle, n'est pas un Jules, on est sûr, à la voir de ses chromosomes. Les scientifiques, en rejoignant le sens commun, qui savent que les chromosomes X et Y sont une chose, et que le sexe en est une autre. Et traiter de tricheuses des femmes parce qu'elles sont musclées, qu'elles ont peu de seins et que surtout elles gagnent en allant voir dans leurs chromosomes, c'est ouvrir la porte à toutes les aberrations. À quand les tests chromosomiques pour entrer dans l'armée, dans les écoles ou dans une profession ? Après l'adoption par l'Organisation mondiale de la santé d'un code de bonne conduite concernant la production et la publicité des préparations de lait en poudre pour les nourrissons, le code de 1981, dit de bonne conduite, ce texte est devenu loi en Inde. C'est le résultat d'un travail de lobbying de diverses organisations. Le code fait déjà force de loi dans beaucoup de pays, dont le Pakistan ou les Philippines. Malheureusement, cela ne signifie pas forcément que les multinationales respectent et suivent toujours ce code. Certaines, comme Nestlé, ont, par quelques subtilités, donné une apparence de bonne conduite tout en continuant leur promotion musclée par derrière, comme ils le font en Inde. D'autres compagnies ignorent, elles, complètement ce code. En 1989, des organisations de consommateurs regroupées dans la International Baby Food Action Network ont relancé ce boycott vers Nestlé, ce boycott qui est suivi maintenant dans 12 pays, la Suisse également. Le boycott des produits qui boycotte donc les produits Nestlé. L'Inde n'a pas encore décidé de boycotter les produits Nestlé, mais de nombreuses organisations diffusent déjà du matériel qui dénonce le rôle des multinationales et leur implication dans la mortalité ou la morbidité infantile. Vous savez que le lait en poudre est dangereux pour les enfants parce qu'on l'utilise pour faire des biberons de l'eau qui n'est pas propre, de l'eau sale, souvent contaminée. Le boycott de la fin des années 70 avait été lancé sur le scandale de ce qu'on a appelé de baby killer, les tueurs de bébés, et ça avait été surtout lancé en Afrique. Aujourd'hui, c'est l'Asie, avec une population beaucoup plus importante, qui est dans le collimateur de Nestlé et d'autres multinationales, comme la Snow du Japon et d'autres. En France, à l'école, les filles sont les plus fortes. C'est ce qui ressort d'une étude et d'un livre qui vient d'être publié, « Allez les filles », écrit par deux sociologues, Christian Baudelot et Roger Establet. Ils célèbrent donc l'école dans ce nouvel ouvrage « Allez les filles ». L'école est en avance sur la société civile. L'école contre tous aurait aidé les filles à démontrer une égalité et même une supériorité qu'elles n'ont par ailleurs imposée nulle part ailleurs. Les filles manifestent depuis les années 50 un surcroît d'énergie dans l'école considérable. Les résultats sont là, en chiffres absolus de scolarisation. Elles font mieux que les garçons, elles redoublent moins à l'école primaire, réussissent mieux au collège et au lycée, passent plus souvent le bac. 42 filles sur 100 passent le bac contre 32 garçons. Elles sont également plus nombreuses à l'université et elles vont jusqu'à devenir majoritaires dans certaines citadelles dites masculines comme les écoles de commerce ou l'école de médecine. Pourtant, les filles n'osent toujours pas s'engouffrer dans des carrières scientifiques, surtout dans les séries, dans les filières scientifiques comme la série C qui, elle, est beaucoup plus fréquentée par les garçons. Une série d'enquêtes conclut que les filles sont à égalité en maths avec les garçons à l'école primaire, au collège et encore en seconde, mais pourtant, en cours de route, elles abandonnent car on persuade les filles qu'elles sont nulles en maths. En effet, à résultats scolaires égaux, les filles s'estiment moyennes ou mauvaises, tandis que les garçons, eux, s'estiment excellents. Et à l'heure de la sélection, elles abdiquent. Un tiers seulement des filles très bonnes ou bonnes en maths visent une série C, guère plus que les garçons qui, eux, sont franchement médiocres en maths. Ainsi, elles gagnent la première manche de leur scolarité en se conformant aux règles de l'institution scolaire, en étant soumises, en étant plus sages, consciencieuses, travailleuses, mais elles refusent ensuite la compétition que les garçons, eux, assument plus facilement. Au moment d'arriver sur le marché du travail, ça se gâte. Les entreprises, elles, ne sont pas très réceptives et elles le disent toujours plus ou moins implicitement, si les femmes arrivent, c'est foutu. Toutes les statistiques sur l'entreprise, les professions, le monde du travail sont nettes, mis à part le secteur qui leur sont réservés, les femmes se voient barrer la route. Aucune modification notable du taux de féminité dans les branches de l'économie nationale n'est intervenue depuis 20 ans. Le capital scolaire des filles est loin de se répercuter dans le monde du travail. Les stéréotypes continuent et sont encore amplifiés par la famille qui génère toujours ces stéréotypes actifs. Les hommes s'occupent des travaux de force, de la voiture, du jardin, les filles du ménage. Car depuis 20 ans, la charge globale du travail domestique est restée inchangée et sa répartition entre les deux sexes aussi inégale. Les femmes également, les filles surtout, ne sont pas encore acquises à travailler à plein temps. Elles savent qu'elles auront toujours un double boulot puisqu'en 20 ans, l'emploi du temps domestique ne s'est raccourci que de quelques minutes. Elles savent donc qu'au bout du compte, elles perdront. Malgré tout, l'école reste un banc très nécessaire et utile. Allez donc les filles. Au Canada, une jeune femme plaide torse nu pour l'égalité des hommes et des femmes. Une jeune Canadienne de 20 ans qui s'était promenée dans la rue torse nu en juillet dernier, alors qu'il faisait plus de 30 degrés, vient d'être condamnée à 75$ d'amende par un tribunal de Toronto. Pas impressionnée du tout par la sentence, la jeune femme a déclaré qu'elle recommencerait. Selon elle, les femmes et les hommes devraient avoir le même droit de se mettre torse nu en public. Ce n'est pas l'avis du juge qui estime pour sa part que quelqu'un qui pense qu'une poitrine masculine et une poitrine féminine sont la même chose, ne vit pas dans un monde réel. En France, manifestation de femmes qui ont manifesté près de l'Élysée pour protester contre ce qu'on appelle la double peine, les expulsions ou les interdictions de territoire qui frappent les étrangers à leur sortie de prison, qui les séparent de leur mari, leur fils ou leur frère. Depuis le 2 janvier, 19 personnes sont en grève de la faim à Paris pour demander l'abrogation de cette double peine. En Chine, 1 milliard de contraceptifs distribués. La Chine a redéfini sa politique en matière de contraception et va distribuer davantage de préservatifs masculins, mais beaucoup moins de pilules contraceptives. L'État va acheter aux fabricants presque 1 milliard de contraceptifs masculins, de préservatifs. Il va en revanche acheter beaucoup moins de pilules, qui va diminuer, la quantité de pilules diminue de presque 60%. La seule pilule qui reste sur le marché, c'est la pilule baptisée pilule des retrouvailles avec le conjoint, un contraceptif utilisé seulement quelques jours quand des conjoints séparés par leur métier se retrouvent. Le Premier ministre ministre japonais a présenté la semaine dernière ses excuses pour l'affaire des jeunes femmes sud-coréennes prostituées de force dans des camps militaires japonais lors de la Deuxième Guerre mondiale. Toutefois, des simples excuses ne semblent pas de nature à satisfaire les Sud-Coréens qui exigent des compensations pour les actes commis par les Japonais lors de cette période, de la période coliale qui va entre 1910 et 1945. Des historiens sud-coréens ont révélé qu'entre 70 000 et 200 000 jeunes femmes, presque toutes des Sud-Coréennes, ont été contraintes de se prostituer dans des casernes de soldats japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. En France, 12 conseillères municipales de la petite ville des Julis en Essonne ont boycotté la réunion consacrée au budget 1992 pour protester contre le manque de sécurité en ville. Plusieurs femmes ont en effet été violées, parfois en présence de leurs enfants, dès le mois de novembre aux alentours d'un centre commercial. Les politiciennes en colère reprochent à la police sa lenteur et le manque de moyens investis dans l'enquête qui piétine lamentablement. À peu près à la même période, plusieurs centaines de femmes ont manifesté en Ouganda, à Kampala, sous l'impulsion du ministre de la Femme et de la Jeunesse et de la Culture, pour réclamer des peines plus sévères à l'encontre des trop nombreux violeurs. Au Pakistan, le viol d'une partisane de Benazir Bhutto a également entraîné une série de manifestations politiques. Bina Hayat, fille d'un politicien connu, a été violée à son domicile à Karachi, dans la province du Sindh, dont est originaire la famille Bhutto. Benazir accuse ses ennemis politiques d'avoir commandé cette agression. Elle a incité son parti à manifester dans les rues d'Islamabad et jusqu'à l'intérieur du Parlement, empêchant le président de prononcer son allocution de fin d'année. Un couple français s'est vu retirer la garde de 4 enfants que lui avaient confiés les services sociaux voici 4 ans. Motif, la famille d'accueil était trop accueillante et les enfants trop heureux, ce qui risquait de compliquer leur future relation avec leurs parents de sang. Procès en cours. Les services britanniques de contre-espionnage sont désormais dirigés par une femme, Madame Stella Remington, 56 ans, 2 enfants, 22 ans de service dans la maison. Autre percée des femmes, les femmes pourront piloter des avions de chasse. Waouh. En Chine, la journaliste dissidente Dai Qing, que les autorités chinoises avaient fait mettre sous les verrous pendant la visite de James Baker pour l'empêcher de communiquer avec les émissaires américains, a été autorisée à quitter la Chine pour les États-Unis. L'Italie plonge vers le bas. Les Italiens et les Italiennes, surtout, ne font plus d'enfants. On a en Italie le plus bas taux de natalité du monde. L'Italie a depuis 5 ans le taux de natalité le plus bas du monde, alors qu'elle a toujours la réputation d'être un pays qui aime particulièrement les enfants. Mais en tout cas, il ne faut pas trop qu'ils arrivent. Ces dernières années, les femmes italiennes ont eu en moyenne 1,29 enfants chacune. C'est donc le taux le plus bas du monde. Au Nicaragua, grande campagne contre la violence faite aux femmes. La violence institutionnelle qui fait des femmes les premières victimes de la crise économique et sociale au Nicaragua se conjugue aujourd'hui de manière insupportable avec la violence sexuelle. Il ne se passe pas un seul jour sans que la presse ne rende compte d'un cas d'une femme battue à mort ou d'une petite fille violée. Les différents groupes de femmes se sont lancés en campagne afin de rompre l'isolement qui fait des Nicaraguayennes les victimes terrorisées d'un machisme consacré par la culture dominante. Je préfère manquer d'argent plutôt que d'être frappée ou d'apprendre que ma fille a été violée. Pourtant, il y a toujours des problèmes plus importants que celui de la violence sexuelle, dénonce Olga Maria, ancienne responsable syndicale à l'Association des travailleurs de l'agriculture. Elle coordonne pour la Fondation féminine Punto de Encuentro la campagne contre la violence, à côté d'autres groupes de femmes comme le groupe sandiniste Lamlae. Excusez-moi. Les statistiques, qui ne reflètent qu'un faible pourcentage des cas, font cependant apparaître que la majorité des agressions sexuelles ne sont pas le fait de malades ou de loubards, comme les médias ont tendance à le dire et l'opinion publique à le croire, mais sont souvent commises par des proches des victimes, parents, voisins, collègues. Le chantage sexuel de la part de certains chefs de service est une pratique courante, trop peu dénoncée et combattue. Une femme, par ailleurs, se sent violée une seconde fois lorsque son histoire apparaît dans les journaux avec force détail, sans aucun contenu critique quant à l'agression. La crainte de voir leur cas exposé ainsi dans les journaux empêche beaucoup de femmes de porter plainte. La société tout entière banalise la violence sexuelle. Même les chansons que l'on entend à longueur de journée véhiculent l'idée que la violence est une preuve d'amour. Il l'a tuée parce qu'il l'aimait, nous disent-elles. Que proposent les femmes qui se sont organisées contre cet état de fait? Punto de Encuentro a réalisé un vidéoclip qui passe à la télévision aux heures de grandes écoutes pour mettre fin au silence qui entoure les agressions sexuelles subies par les petites filles. Jusqu'à là, on a prêté très peu d'attention à un problème extrêmement répandu au Nicaragua. La majorité des victimes le vit dans la peur et la culpabilité, en particulier dans le cas le plus fréquent de viols commis par le père ou le compagnon de la mère. L'organisation féminine Amlae a lancé de son côté une campagne à travers les médias pour appeler les femmes à dénoncer les agressions dont elles sont victimes et pour réclamer une réforme juridique qui fasse du viol un crime puni plus sévèrement que ne le prévoit l'actuelle législation. Cette proposition de réforme au code pénal, qui fait encore une distinction entre les jeunes filles, les femmes de bonne réputation et les autres sortes de femmes, est défendue à l'Assemblée par la commission parlementaire des femmes du Front sandiniste de libération nationale. Mais comme le constate Olga Maria, je cite, « on peut avoir les meilleures lois du monde, on ne les utilise pas si on ne se sent pas dans son droit ». La campagne pour une transformation juridique doit donc s'accompagner d'une lutte plus profonde, prolongée et qui touche toute la société. Celle-ci considère communément que la violence sexuelle est de l'ordre des affaires privées et c'est la première barrière à renverser, estime une femme officier de police qui reconnaît que le problème a toujours été négligé au profit d'autres priorités. C'est dans ce même esprit de prise en charge collective du problème de la violence que certaines femmes de Masaya et de Matagalpa se sont organisées sous le nom de Defensoras Populares. Convaincues que la solidarité est la meilleure manière de répondre à la violence machiste, elles la mettent en pratique. Lorsqu'une femme a besoin d'aide, nous décidons des mesures à prendre. S'il n'y a pas de solution pacifique possible, nous faisons du tapage dans les journaux, nous peignons des inscriptions sur la maison du coupable. Ici vit un violeur, ici vit un homme qui frappe sa femme, ou nous allons l'interpeller sur son lieu de travail. Depuis 16 mois que nous agissons, nous avons réglé 35 cas. Action juridique, campagne idéologique, réseau solidaire, action directe, dissuasive, autant d'instruments pour que les Nicaraguayennes se convainquent que la violence n'est pas une fatalité ni un ingrédient de l'amour. En Allemagne, les femmes pourront travailler de nuit. L'interdiction du travail de nuit pour les ouvrières, en vigueur en Allemagne depuis un siècle, est anticonstitutionnelle. C'est ce qu'a indiqué hier le tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe. Cette cour a jugé cette interdiction illégale, car discriminatoire à l'encontre des femmes. En Suisse également, le conseil fédéral qui doit se prononcer sur la reconduction ou non de la convention 89 qui interdit du BIT, qui interdit toujours le travail de nuit des femmes dans l'industrie, ne s'est pas encore prononcé. Il ne se prononcera pas avant la fin février, ce qui représente l'ultime délai, lorsqu'il disposera de toutes les informations nécessaires. C'est ce qu'a dit au Conseil des États le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamure. À Genève, à l'ONU, surprise, un Iranien a été nommé à la Commission des droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme de l'ONU a donc élu l'Iranien Cyrus Nasseri à l'une de ses trois vice-présidences. Cette élection a aussitôt fait grincer des dents des membres des organisations non gouvernementales. Nasseri est l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies à Genève. Il a été accusé par les Moudjahidines du peuple d'être un des responsables du terrorisme iranien en Europe. Selon les Moudjahidines, Cyrus Nasseri a personnellement finalement dirigé l'assassinat devant l'ONU le 24 avril 1990 du professeur Rajavi, frère de Massoud Rajavi, leader du principal mouvement d'opposition iranien. D'autre part, quand on sait et on voit comment l'Iran traite les femmes, on se dit qu'une fois de plus, quand on parle de droits de l'homme, on ne pense pas aux femmes. L'infirmerie du prieuré, le personnel débraye. 120 personnes qui travaillent à l'infirmerie du prieuré ont débrayé hier pendant une heure en guise d'avertissement, disent-elles. À l'origine de leur colère, leur salaire de janvier identique à celui de décembre 1991, alors qu'il aurait dû être à la hausse. L'infirmerie du prieuré est en charge de personnes âgées et des handicapés au total, donc 110 lits. L'infirmerie est gérée par le Bureau central d'action sociale, mais le personnel est employé au même tarif que les établissements publics. En janvier 92, les employés auraient dû percevoir un salaire comprenant des annuités et une indexation et une allocation de rattrapage. Il n'en a été rien. Ils ont reçu le même salaire qu'en décembre 91 sans aucune hausse. D'où la colère des employés. S'ils n'obtiennent pas réparation le mois prochain, ils manifesteront chaque jour dès le 10 février. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, canicule, le quart d'heure lesbien sur Radio Pleine Lune, suivi du Memento de Marjolaine. À tout de suite. I don't know about the boom. I don't know. You don't know.